Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui en l'espace d'une saison est devenu un peu comme ce vieux pote que vous aimez bien, sans plus trop savoir pourquoi. Ce vieux pote qui radote.
J'en peux plus des trottinettes.
Ce vieux pote qui ne pense qu'à bouffer.
Ah, ça sent la pizza.
Mais ce vieux pote qu'on aime quand même et dont on sait qu'il va nous manquer pendant les vacances. Car oui, Céline, chaque matin, notre belle complicité me renvoie à l'essentiel, à ce qui fait au fond, disait Épicure, le sel de la vie, l'amitié, avec pour corollaire ce constat, Céline.
On se touche pas assez.
Oui, mais peu ou prou, oui, c'est à peu près ce que disait Épicure. Hélas, pas le temps de philosopher car Fabrice d'Almeida arrive. Le monsieur histoire d'Europe 1 sera ce matin à l'heure américaine. Donald Trump a annoncé le lancement de sa campagne pour la présidence américaine, évidemment sa réélection, ainsi que l'expulsion de millions de sans-papiers. Pour Fabrice d'Almeida, ce n'est pas sans rappeler l'opération Wetback avec Eisenhower au milieu des années 50.
Merci d'écouter Europe 1 ce mercredi 19 juin. Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 19 juin. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
Michel Platini est sorti de garde à vue peu avant 1h du matin. L'ancien patron de l'UEFA a été interrogé pendant de longues heures dans le cadre de l'enquête pour corruption sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Le chauffard de Lorient a dormi derrière les barreaux, écroué après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées. Donald Trump a lancé sa campagne électorale pour 2020 sur un air de déjà-vu. Et puis, le mondial de foot féminin, nouvelle séance d'entraînement pour les Bleus qui sont arrivés au Havre hier après-midi. Prochain match dimanche, on y revient avec Jérôme Lacroix.
Europe 1.
L'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, est donc ressorti libre de sa garde à vue. Peu avant 1h du matin, il a été entendu pendant 15 heures dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Une audition dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national financier pour examiner donc les conditions dans lesquelles a été attribuée la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Michel Platini a réagi à la sortie de sa garde à vue.
Écoutez, ça a été long. Mais vu le nombre de questions, ça devait être que long, puisqu'on m'a quand même posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la FIFA. Donc il y a beaucoup de thématiques. Et donc j'ai répondu, voilà, tranquille à tout ça. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. Je devais arriver comme auditeur libre, je suis arrivé, on me met tout de suite en garde à vue. Ça fait mal, quoi. Hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait. Ça fait mal. Mais bon, après, ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions. Voilà.
Michel Platini au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui, l'ancienne conseillère sport de Nicolas Sarkozy. Sophie Dion a elle aussi été interrogée, tout comme Claude Guéant, ex-secrétaire général de l'Élysée. Le chauffard de Lorient, arrêté hier dans un hôtel à quelques kilomètres seulement du lieu du drame, a été écroué hier soir, mis en examen notamment pour homicide involontaire. Le jeune homme de 20 ans risque jusqu'à 10 ans de prison. Selon le journal Ouest France, il avait écrit une lettre aux médias pour dire qu'il n'était pas un meurtrier, lettre qu'il n'a jamais envoyé durant ces 9 jours de cavale.
Direction les États-Unis à présent où Donald Trump repart en campagne.
Oui, le chef de la Maison-Blanche vise la victoire en 2020. 20 000 supporters sont venus l'écouter à Orlando en Floride. Donald Trump qui a ressorti ses thèmes favoris qui lui avaient permis de gagner en 2016. Le reportage du correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon.
Avec Donald Trump, le spectacle est toujours garanti. Devant une foule en transe, le président improvise un vote par acclamation.
Are you ready?
Quel slogan choisir pour sa réélection? Faut-il garder celui de 2016?
Make America great again.
Rendre sa grandeur à l'Amérique ou bien passer à
Keep America great.
Conserver la grandeur de l'Amérique. Finalement, ce sera un peu des deux. Mais pour le reste, les 20 000 fans à casquette rouge ont eu droit à un best-of Trump. Toutes les formules qui ont marché en 2016.
Stop illegal immigration.
Un long couplet évidemment sur l'immigration, les médias, fake news et même les attaques répétées contre
Hillary Clinton.
Hillary Clinton, qui n'est pourtant plus l'adversaire. Seule mise à jour dans le discours de Donald Trump, son bilan.
We accomplish more than any other.
Aucun président n'a fait mieux que moi en 2 ans et demi, se vante-t-il.
Our economy is the envy.
Le monde entier nous envie notre économie. Et tout ça sera perdu avec les démocrates, ces gens animés par la haine qui ont voulu effacer votre vote avec l'enquête russe, dit Donald Trump, qui fait tout pour que sa base se sente à nouveau assiégée et donc se mobilise. Il faut un tremblement de terre dans les urnes, le même en fait qu'en 2016. C'est son seul espoir pour être réélu, lui, le président le plus impopulaire de l'histoire. New York, Xavier Yvon, Europe.
À Londres, le député conservateur Boris Johnson a conforté son avance dans la course à la succession de la première ministre britannique Theresa May. Il a terminé largement en tête du deuxième tour du vote, réaffirmant que Londres devait sortir de l'Union européenne. Le procès Balkany place à la défense aujourd'hui. 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt requis à l'encontre du maire de Levallois-Perret. Cet après-midi, ses avocats, dont Maître Dupont-Moretti, vont tenter de lui éviter la prison. Salomé Legrand.
Tout au long du réquisitoire, il a grommelé à intervalles réguliers derrière son client qui faisait de grands noms de la tête. Éric Dupont-Moretti, deuxième vedette de ce procès spectacle suivi par un public chaque jour plus serré sur les bancs, va donc investir le prétoire tout à l'heure pour son monologue final. Si Balkany a reconnu la fraude fiscale, il réfute tout blanchiment, toute corruption. « Je n'ai dépensé que de l'argent familial », martèle depuis le début le maire de Levallois, dont l'avocat va réclamer qu'il ne soit pas cloué au pilori de l'exemplarité. Une plaidoirie périlleuse pour ce ténor, certes surnommé acquittateur, mais qui, au long des 4 semaines d'audience, n'a fait que peu d'interventions sur le fond du dossier. Hier, ses confrères ont techniquement tenté de démonter l'existence d'un quelconque pacte de corruption autour des tours de Levallois, mais ils ont au passage miné la défense de Balkany sur la réelle propriété du riad marocain. Maître Dupont-Moretti qui va en outre devoir trouver une parade à l'arrogance affichée à longueur d'audience par son client.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Enfin, une vente aux enchères particulière ce soir à 19h chez Hercurial.
Oui, celle de la collection intime d'André Malraux, l'écrivain grand amateur d'art. Une centaine d'objets vont être vendus, des livres, des peintures conservés jusqu'ici dans le bureau de sa dernière demeure à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne. Diane Chénouda.
C'est la collection d'un passionné d'art, Malraux, ami de Miro, Braque et Picasso. Le commissaire-priseur chez Hercurial, Stéphane Aubert.
Alors il y a une estampe de Picasso pour André Malraux, son ami Picasso, daté 67. On voit bien cette relation très forte qu'avait Malraux avec tous ses artistes. Il parlait de même d'une religion, hein. Il était en art comme il était en religion.
Il y a même des caricatures de Picasso signées par Malraux lui-même.
Ici, vous avez Picasso, cette fois-ci par Malraux. Donc André Malraux était également artiste, ça on le savait un peu moins.
Malraux qui avait aussi une passion pour les arts africains et la peinture haïtienne.
Le dernier voyage d'André Malraux, c'est à Haïti. Et à Haïti, il est ébloui par toutes ces peintures, un peu naïves, hein, mais très colorées. Il est fasciné par ces peintures.
Parmi les plus belles pièces de cette vente, estimée en tout à 200 000 euros.
Diane Chénouda, un reportage qu'Eva Rock a beaucoup apprécié.
Oui, et surtout beaucoup écouté.
Oui.
C'était le journal...
J'adore quand on parle d'art, c'est tellement
grand. Oui, c'est vrai, vous êtes une passionnée d'art et de Malraux. C'était le journal de Céline Kallmann, une journaliste qui s'efforce chaque matin justement de rester sérieuse. J'ai envie de dire, contre vents et marées, certains jours, confrontée aux réflexions stratosphériques de Céline Dacosta, elle peine à cacher son effarement.
Vous êtes en direct de Toulouse, devant le lycée Stéphane Hessel, Benjamin.
Sinon, il a mis du déo, le mec, ou pas?
Hein?
Il a mis du déo?
De
Stéphane Hessel.
Je n'ai pas compris.
Il a mis du déo ou pas?
Stéphane
Hessel. Non, ça, je ne valide pas du tout.
Allez, courage, Céline.
C'est génial.
Plus que deux toutes petites semaines.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre cet historique, le fact-checking par l'histoire. Donald Trump a annoncé vouloir expulser, je cite, des millions de sans-papiers. Fabrice Dalméda reviendra sur l'opération Wetback du président Eisenhower aux États-Unis, qui au milieu des années 50 avait pour objectif l'arrestation et la déportation des migrants illégaux. Est-ce comparable avec le projet de Donald Trump en matière d'expulsion? Nous verrons cela avec le monsieur Histoire d'Europe.
Bon réveil, il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
Et on fait un point sur la météo. Céline, vous ne m'avez pas l'air prête.
Plaisir.
Vous ne m'avez pas l'air prête pour cette météo.
Si
et pourtant, je vous le dis, les orages sont toujours présents.
Oui, on a un risque ce matin d'orage près des frontières du Nord. Le ciel est bien couvert avec un risque d'averse sur toute la moitié Nord. Et puis cet après-midi, ça sera le retour d'un ciel orageux du Nord au Massif central. Le soleil sera toujours présent dans le Sud-Ouest essentiellement et près de la Méditerranée. Sur le flanc Est, là aussi, on aura des éclaircies. Mais les orages vont gagner toute cette partie du pays en fin de journée. Les températures, elles baissent un peu, mais restent chaudes. Hein. 24 à 30 degrés, c'est la moyenne cet après-midi. Il en fera 24 à Paris, un petit peu moins près de la Manche comme hier, avec 18 à Brest ou encore 19 à Cherbourg.
Merci Céline. On souhaite aujourd'hui un joyeux anniversaire à Jean Dujardin. Eva
oui,
Rock.
Et à cette occasion, on vous demande depuis ce matin, 5h sur Twitter avec le hashtag Europe 1, quel est l'acteur français qui vous fait craquer? Vous êtes très nombreux à nous répondre, Belmondo, évidemment Jean-Paul Belmondo. D'autres qui nous répondent, Alain Delon, qui est vraiment craquant, notamment dans la piscine, nous dit Claire. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est vrai, non,
oui.
oui, c'est vrai, il est craquant.
Ah, mais, oui, mais il est un peu au-delà du craquant, Alain Delon.
Ah bah oui, plus que craquant, on est bien d'accord.
Le plus bel homme du monde.
Et puis j'aime bien quand vous répondez un tout petit peu à la question, parce que, enfin, un tout petit peu à côté de la question, pardon, comme Carlisa nous dit, bon, par exemple, Claude Brasseur dans les années 80, mais aucune comparaison avec George Clooney ou Clint Eastwood, on est d'accord, mais c'était pas la question. Et Yves Honor nous dit, c'était pour moi, c'est Lino Ventura, ok, puis il me dit, mais j'adore une actrice, Jodie Foster.
Ah oui.
Mais là, pareil, c'était pas la question.
Mais je vous adore quand même. Mais on vous aime quand même. Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
On dit souvent du métier d'aumônier que c'est une vocation, mais journaliste sportif aussi, c'est une vocation. Car chaque matin, non content de nous donner l'ensemble des résultats sportifs en un temps imparti assez court, Jérôme Lacroix doit également déjouer tous les bâtons que je lui mets dans les roues en intervenant à mauvais escient dans sa rubrique pour dire absolument n'importe quoi avec cette impunité insupportable que confère la supériorité hiérarchique. D'habitude, il est stoïque. Hier, on a senti chez GG une pointe d'agacement.
Le 15 de France des moins de 20 ans s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe du Monde en Argentine.
C'est peut-être eux qu'on doit faire jouer pour la prochaine Coupe du Monde.
Ah bah oui, bah ça...
Bah oui. Bah... Pourquoi pas, s'ils sont meilleurs. Hein ?
On finit ou pas ?
Oh ! Ah, il est agacé ! Bon, allez, Jérôme Lacroix, voici le journal des sports, le journal du mondial.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Eh oui, alors là, j'ai un lancement sur Donald Trump. À mon avis, Donald Trump ne participe pas à la Coupe du Monde féminine. Et j'ai envie de dire, heureusement, au sommaire ce matin de la Coupe du Monde, de votre journal de la Coupe du Monde.
Les Bleus, le vent dans le dos, toujours chouchoute du public. Elles l'ont constaté hier au Havre, la Normandie, où elles disputent dimanche le 8e de finale. Contre qui ? Possiblement les Brésiliennes, qualifiées hier après un succès face aux Italiennes. Et puis, elle est l'une des personnalités marquantes de ce début de mondial. Vanina Correa, la gardienne de l'Argentine. Maman, courage.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Mais non, les supporters n'ont pas du tout été douchés par la prestation moyenne avant-hier contre le Nigeria. Près d'un millier de fans sont venus hier après-midi encourager les joueuses lors de leur premier entraînement au Havre, théâtre dimanche du 8e de finale.
Je suis agréablement surpris, je voulais voir ce que ça donnait en direct. J'aime bien cette technique.
C'est mieux que les garçons, ils sont moins douillettes. Parce que hier, j'en ai vu une qui est tombée, elle s'est fait mal à la cervicale, elle est retournée sur le terrain. Tandis qu'un garçon, lui, il serait parti au vestiaire.
Moi, j'ai hâte de les voir sur les Champs-Élysées quand ils vont les descendre.
Eh ben voilà, c'est dit, les Bleus qui sont arrivés hier après-midi en Normandie. Aujourd'hui, nouvelle séance d'entraînement prévue à 10h à huis clos cette fois. Et cet après-midi, quartier libre, les joueuses pourront, si elles le souhaitent, en profiter pour voir leur famille et leurs amis.
Et le huitième de finale alors, Jérôme, est-ce qu'on sait enfin qui sera l'adversaire dimanche de la France ?
Eh ben non, pas encore. Bah,
comment ? Mais faites votre travail de journaliste, Jérôme.
Mais justement, on ne peut pas le savoir encore à cause de la règle du meilleur troisième. Il faut encore attendre que les matchs du premier tour se terminent dans les autres groupes. Mais pour l'instant, la probabilité statistique la plus forte, c'est le Brésil. Oui, ambiance samba captée hier dans les rues de Valenciennes. C'est l'axe donné. Brésil-Italie, fin du premier tour du groupe C. Plus de 20 000 spectateurs au stade pour voir la victoire des Brésiliennes. 1-0, but sur pénalty de l'attaquante Marta, une méga star, hein, élue 6 fois meilleure joueuse du monde. Et elle a inscrit hier son 17e but en 5 participations au mondial. 17 buts, c'est tout simplement le record en Coupe du Monde, filles et garçons confondus. A noter également hier le succès 4-1 des Australiennes sur les Jamaïcaines. La capitaine australienne Sam Kerr a inscrit un quadruplé, les 4 buts de son équipe.
On vous fait entrer ce matin dans les coulisses du groupe France avec une personnalité de l'ombre, mais capitale.
Oui, il s'appelle Richard Ouvrard, 57 ans. Son job, c'est la tête la première, c'est le préparateur mental de l'équipe. 2 décennies qu'il exerce cette fonction d'apaisement des esprits des sportifs. Depuis 2 ans, il est auprès des Bleus du foot. Les moments, notamment en tête-à-tête avec Richard Ouvrard, sont une respiration essentielle, détaille la capitaine Amandine Henry.
Ça passe par des questionnaires ou du face-à-face, parce qu'il y a des choses plus intimes qu'on aime partager qu'avec une seule personne. Et donc, il est là, il est à notre écoute. Il nous aide aussi à progresser individuellement, mais surtout collectivement.
Et Richard Ouvrard, le préparateur mental, a aussi collaboré avec les joueuses de l'équipe de France de handball, récemment sacrée championne du monde.
Et enfin, Jérôme, l'équipe à suivre aujourd'hui, l'Argentine.
Écosse-Argentine, 21h, et on a hâte de voir à nouveau Vanina Correa, la gardienne argentine exceptionnelle d'efficacité et de vélocité dans ses buts depuis le début du tournoi. Elle qui est revenue au foot il y a moins de 3 ans après 6 années de pause pour donner naissance à Roméo et Luna, ses jumeaux.
C'est très très belle histoire. Et Vanina qui impressionne tellement dans le jeu que l'Argentine a un nouvel hymne. Espérons que ça leur porte chance.
La paix et la rock, je suis pas sûr qu'elle en soit flattée.
C'est sûr. C'était le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix. Et Céline, est-ce que vous le sentez venir ?
Ah, ça sent la pizza.
Rien à voir, rien à voir, c'est Fabrice Almeida qui arrive pour notre brique histoire. Vous aimez l'histoire, Jérôme?
Avec un B majuscule.
Ah, super, voilà. On y va.
Europe 1. Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice.
Bonjour,
Almeida.
Bonjour à tous.
Donald Trump a décidé de lancer une grande politique d'expulsion des immigrés illégaux des États-Unis. Cette politique d'expulsion est-elle vraiment sans précédent dans l'histoire du pays?
Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez Dwight Eisenhower, hein, l'ancien chef d'état-major des armées, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui a lancé la plus grande opération d'expulsion de latinos de l'histoire américaine quand il est devenu président des États-Unis. Selon lui, l'immigration illégale expliquait le chômage des anciens combattants. Comme Trump, il dénonçait une invasion, une subversion. Il confie donc à un général, Joseph Swing, en 1954, l'opération d'eau mouillée, l'opération White Back, l'expulsion des immigrés clandestins en coopération avec le gouvernement mexicain. D'eau mouillée, car les Mexicains étaient censés être rentrés clandestinement aux États-Unis en passant à la nage le Rio Grande.
Et combien de personnes ont été touchées?
Entre 1 et 2 millions d'immigrés ont été renvoyés au Mexique et en Amérique centrale, soit le quart des immigrés du pays à cette époque. Les journaliers qui travaillaient dans les champs du Texas et de Californie ont été déportés à pied, avec parfois des internements dans des conditions terribles, en plein soleil. Des bateaux utilisés pour d'autres depuis la Floride étaient si chargés que les déportés y mouraient. Puissante en 1955, l'opération s'est ralentie, mais elle a duré jusqu'au début des années 60.
Quelles ont été ses conséquences pour les États-Unis?
En fait, rapidement, les employeurs des secteurs industriels et agricoles se sont plaints de mesures qui les privaient d'une main-d'œuvre efficace sans réelle alternative. L'administration fédérale a donc allégé les mesures. L'immigration est revenue et depuis les années 80, avec Ronald Reagan, le débat sur ses contours et ses limites n'a pas cessé. Trump, aujourd'hui, porte le paradoxe des États-Unis, un pays construit par l'immigration, qui voit maintenant les nouveaux venus comme une menace.
Merci Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Merci. Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font ce matin à l'occasion du salon aéronautique du Bourget. Mesdames, je vous propose qu'on s'envoie en l'air. La dernière fois que Jérôme Lacroix a tenté un décollage avec Eva, ça n'a pas été un franc succès.
Attention, ça monte. Attention. Ah non, ah bah non, ça marche pas là.
À 6h20, oublions ce mauvais souvenir avec Jérôme Bouchard, un expert aéronautique qui nous parlera de ces avions du futur qui vont révolutionner nos voyages.
Bon réveil à tous, il est 6h16. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'ancien patron de l'UFA, Michel Platini, ressorti libre de garde à vue cette nuit après plusieurs heures d'audition. Il a été entendu dans l'enquête sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Son avocat a dénoncé, je cite, « beaucoup de bruit pour rien ». Le chauffard, soupçonné d'avoir tué un enfant et d'en avoir blessé un autre à Lorient, interpellé dans le Morbihan hier, il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées. Il a passé sa première nuit en prison. Et puis, Fort Myers, 4 ans de plus, Donald Trump a lancé la campagne pour sa réélection en 2020 depuis Orlando, Floride, le président des États-Unis a donné le coup d'envoi de sa campagne pour tenter de décrocher un second mandat après sa victoire surprise de 2016.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 19 juin et l'actualité, c'est aussi le Salon du Bourget qui se tient depuis lundi au nord-est de Paris. 300 000 visiteurs sont attendus pour cette grande messe mondiale de l'aéronautique. Sécurité des appareils, normes environnementales et nouvelles technologies sont quelques-unes des problématiques du moment. Bonjour Jérôme Bouchard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes expert aéronautique, associé au sein du cabinet Oliver Wyman. Ces derniers mois, évoquer l'aviation revenait à parler de sécurité. L'avion vedette de Boeing, le 737 MAX, est immobilisé depuis maintenant mars après 2 crashs qui ont fait au total 346 victimes. Or, Boeing a dévoilé au Bourget une commande géante de 200 appareils. Ça signifie que la confiance est revenue autour de l'avionneur américain, confiance des professionnels peut-être, mais nous, simples usagers, on ne doit plus s'inquiéter de monter à bord d'un 737 MAX quand il sera remis en circulation.
Bon, je suis content que vous commenciez par cette question de sécurité, parce que la sécurité, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'industrie aéronautique, c'est la préoccupation principale. Vous l'avez dit, commande surprise de la part de British Airways hier, 200 appareils, donc on parle d'un chiffre énorme. Je pense en effet que la confiance, en tout cas du marché, est revenue. Après, par rapport à la confiance des passagers, vous et moi, j'attends bien entendu que les autorités de certification américaines puissent publier le bulletin qui rendra le Boeing volable.
Est-ce que c'est pas étonnant? Enfin, je connais rien au business des avionneurs, mais comment British Airways a pu passer une commande de 200 appareils sur un modèle qui est encore un peu suspect avant qu'il y ait une nouvelle certification? Pourquoi pas prendre tout simplement un Airbus, un modèle équivalent? Pourquoi choisir
Boeing ? Il y a évidemment une guerre commerciale, mais la réponse à votre question, elle est simple. Elle réside dans le fait que l'industrie aéronautique a la chance d'avoir un backlog, c'est-à-dire un montant d'un carnet de commandes. Oui, un carnet de commandes total de plus de 7 à 10 ans. Et donc, si vous achetez aujourd'hui 200 avions, eh bien, ils ne vous seront livrés que dans au mieux 4 à 5 ans.
Ah oui, donc ils sont largement certifiés à ce moment-là.
Ah, c'est, bien sûr.
C'est ce que dit British Airways. Alors, nous sommes à la veille des vacances d'été. Comment rassurer les gens qui vont prendre l'avion ? Quels sont les statistiques d'accidents? Il faut peut-être rappeler que l'avion est un moyen de transport sûr.
Tout à fait, et c'est même statistiquement le plus sûr de tous les moyens de transport. Donc, il y a à peu près 4 milliards de passagers qui voyagent chaque année en avion pour des accidents ou des incidents qui sont malgré tout, certes malheureux, mais très limités.
Le trafic aérien double tous les 15-20 ans. On tape sur 40 000 avions dans le ciel dans 20 ans. Comment l'aéronautique peut répondre à l'urgence écologique? Est-ce que ce n'est pas directement contradictoire?
Alors, c'est sûr que la croissance est là, hein, et donc il va falloir la gérer et donc réduire considérablement les émissions. Pour cela, moi je crois en l'hybridation de la motorisation.
Ça va arriver donc dans l'aéronautique. Est-ce que là, sur le salon du Bourget, il y a déjà des exemples de modèles qui soient hybrides, voire électriques? J'ai vu qu'il y avait un avion électrique qui avait été présenté.
Voilà, alors les modèles hybrides, ils vont arriver très vite. Très vite, c'est 3-4 ans hein, à l'échelle aéronautique. Mm-hmm. Ils vont être hybrides avec de l'énergie électrique. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que c'est des batteries qui sont encore très lourdes et compliquées à recharger? Ou alors, est-ce que c'est directement de l'hydrogène qu'on va mettre dans les avions pour générer de l'électricité à travers une pile à combustion? Moi, je crois fort à la deuxième solution.
Et là, et l'avion électrique qui a été présenté, il a été présenté par Eviation, une start-up israélienne qui a mis au point cet appareil de 9 places, d'une autonomie de 1000 km. Oui. Et la compagnie régionale américaine Cape Air devrait être la première à l'exploiter. Donc, c'est que ça marche s'il y a une exploitation commerciale. Non, c'est gadget pour vous.
Oui, ça reste du gadget. Hein. Enfin, déjà, 9 places, c'est des avions très petits. Mmh. Bon, 1000 km, ça peut paraître intéressant, mais en fait, une fois qu'on a enlevé les marges de sécurité, il ne reste pas grand-chose. Ce qui est bien, c'est que voilà, l'industrie aéronautique est une industrie pionnière. Elle prend à cœur ce problème écologique et elle propose des premières solutions.
Alors, vous nous dites que le marché se porte bien. Pourtant, de la part des voyageurs, il y a de plus en plus une culpabilité à prendre l'avion, surtout sur des courtes distances, rapport évidemment aux émissions de CO2. En Suède, ça a même un nom, le Flixgam, littéralement la honte de prendre l'avion. De plus en plus de voyageurs ont décidé de changer leurs habitudes, considérant que l'avion pollue trop. Est-ce que ça, c'est un épiphénomène ou c'est quelque chose qui va forcer l'industrie aéronautique à se réinventer?
Non, c'est un sujet très sérieux. Hein, et moi, je pense que j'y vois plutôt une opportunité qu'un risque, parce que cette industrie aéronautique, elle a besoin de changer. Aujourd'hui, les avions dans lesquels on vole, hein, fondamentalement, c'est les mêmes depuis 100 ans, en exagérant un peu. Donc, il est temps de repenser la propulsion d'un avion, sa forme, mais aussi le confort des passagers à l'intérieur. Et on peut faire tout ça d'un seul coup.
Et en France aussi, plusieurs députés souhaitent que les vols intérieurs soient supprimés quand il y a la possibilité de prendre un TGV à la place. C'est vrai qu'un Paris-Rennes, par exemple, en TGV, ça va très vite, c'est peut-être pas la peine de prendre l'avion. Est-ce que c'est d'un futur possible où certaines lignes, certains trajets en France en avion disparaissent?
Moi qui habite à Toulouse, je peux vous dire que j'espère pouvoir prendre encore l'avion très longtemps.
Oui, mais pour Toulouse, ça on comprend, parce que le train met un peu de temps pour arriver jusqu'à Toulouse. Mais maintenant, pour des destinations comme Bordeaux, Rennes, ça va quand même assez vite.
Non, mais après, je laisse le choix aux passagers. Ce qu'il faut voir, c'est que l'industrie aéronautique, c'est une industrie de connexion. Donc voilà, quand on veut aller, mettons, à Bangkok en destination finale,
on passera
par un aéroport, donc il y a toujours un intérêt à avoir des courtes distances.
Et alors justement, le Bourget, c'est aussi une vitrine pour le futur de l'aviation. À quoi ressemblerait l'avion du futur, selon vous ?
Ah ben, ça serait un avion qui serait très différent. Hein. Pour moi, la saucisse avec les deux ailes, c'est terminé.
Pour quelqu'un de Toulouse.
Ah oui, c'est pas voilà.
Exactement. Donc, voilà. Donc tout ça, pour moi, ça c'est terminé. D'ici 15 ans, 20 ans, on aura des nouvelles formes qui ressembleront, alors sans ressembler encore à Star Wars, hein, mais peut-être à des ailes Delta, à des choses
c'est
beaucoup
quoi,
plus
des
plates.
Ailes Delta
Et ben, c'est un
Delta,
avion de forme triangulaire.
Ah oui, autant pour moi, je ne sais pas
si vous voyez les cruisers de l'Empire dans Star Wars, alors c'est en moins gros hein, quand même, hein, puis qui ne volent pas dans l'espace.
Là, vous me parlez, là. Des exemples simples comme ça.
Exactement.
Et en termes de confort, à quoi ça va ressembler pour
un passager? Ouais, déjà qui sera beaucoup plus connecté, donc on aura la même connectivité que dans son salon, on pourra regarder Netflix, puis avec des très beaux sièges et un peu plus d'espace.
Pourquoi pas faire des lits couchettes?
Ah oui, ça c'est pour vous ça.
Bah oui, ça serait bien.
Mais
même en classe éco, on les met les uns sur les autres, mais comme ça on est bien allongés. Bon, moi c'est ma proposition pour l'aéronautique. Je la lance comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Merci beaucoup Jérôme Bouchard, je rappelle que vous êtes expert aéronautique au sein du cabinet Oliver Wyman. Le salon du Bourget se tient jusqu'à dimanche. Il sera ouvert au public à partir de vendredi. Merci d'avoir été avec nous.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le Caravage du News, David Doucan et puis la météo avec un ciel encore bien orageux.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Céline, faisons immédiatement un point sur la météo. Les températures sont encore douces ce matin.
Oui, 13 à 23 degrés, l'on fait 15 à Rennes, 17 à Montpellier, 19 à Lille, 21 à Paris, 23 à Nice. Cet après-midi, ça baisse par rapport à hier, mais il fera encore chaud puisqu'on aura 24 degrés à Paris, 25 à Bordeaux, 28 à Ajaccio et Perpignan, 30 degrés à Nancy, à Toulouse ou encore à Montélimar. Près de la Manche, c'est un petit peu moins chaud avec une moyenne de 18 à 23 degrés.
Côté ciel, c'est encore perturbé.
Beaucoup de nuages sur la moitié nord pour ce matin avec encore quelques averses possibles, notamment sur la Bretagne, le Cotentin, dans les Hauts-de-France aussi. On pourra encore avoir quelques coups de tonnerre près des frontières du Nord. Pour les autres, du soleil, un peu voilé de l'Aquitaine au nord de la région Rhône-Alpes, un ciel qui sera en revanche totalement dégagé des Pyrénées aux Alpes et en Corse. Et puis cet après-midi, le soleil restera voilé mais bien présent sur un gros quart sud-ouest, sur le flanc est également. Soleil aussi près de la Méditerranée avec un peu de mistral. Partout ailleurs, ce sera à nouveau instable avec un ciel souvent orageux du Nord au Massif central. Instabilité qui va gagner toutes les régions de l'Est dans la soirée.
Merci Céline. À suivre sur Europe 1, les Trois Fantastiques et le journal de 6h30 de l'inestimable David Doucan.
Europe 1, 5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui a surfé quotidiennement la vague dangereuse de l'humour potage, aurait pu parfois déraper, notamment face à des invités aux noms rigolos, comme par exemple vendredi dernier. Par chance, je n'étais pas là. J'aurais eu peu de chance d'arriver au bout de l'interview. Non, c'est mon remplaçant Julien Pierce qui s'y est collé. Et hélas, pour la respectabilité journalistique de notre émission, Céline Dacosta, elle, était là.
Merci Jean-Paul Demoule d'avoir été...
Si tu ne manges pas avec Demoule, hein. Ça dépend de la taille de la moule.
Heureusement que de vous les copains, c'est aussi les Trois Fantastiques. Politique, économie, médias. Chaque matin, ils vous livrent de l'actu leur vision sans concession. Aujourd'hui, sur l'assurance chômage ainsi que sur les autres réformes à venir, Mickaël Darmon nous entraînera dans les coulisses du gouvernement pour nous parler du nouveau rôle de Sibeth Ndiaye.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Michel Platini aura passé 15 heures en garde à vue, mais il est ressorti libre en pleine nuit. Cela fait mal, a déclaré l'ancien vice-président de la FIFA. Les policiers enquêtent sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Récit et explications dès le début de ce journal. La réforme de l'assurance chômage, dégressivité pour les cadres, durcissement des conditions d'accès aux droits, des sanctions pour les entreprises qui font trop usage des contrats précaires et des oppositions politiques vent debout. Reportage à l'Assemblée dans un instant. Boris Johnson, super favori pour s'installer au 10 Downing Street. Il était hier en débat avec ses quatre concurrents sur la BBC. Compte rendu de notre correspondante à Londres dans cette édition.
Europe 1.
Ça fait mal, a déclaré Michel Platini à 1h du matin devant l'office anticorruption à Nanterre. Il venait de passer 15 heures en garde à vue, il en est ressorti libre. Les enquêteurs se penchent sur l'attribution de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Les soupçons planent notamment sur un déjeuner secret à l'Elysée en 2010, en présence de Nicolas Sarkozy, quelques jours avant le vote. Récit signé Pierre de Cossette.
Des dizaines de questions soigneusement préparées. Au 9e étage de la PJ, dans les bureaux de l'Office anticorruption, trois invités de marque, tous entendus séparément, quand en fin de journée, les enquêteurs les réunissent dans le même bureau. Confrontation, il y a la Claude Guéant, Sophie Dion, ex-conseillère sport du président Sarkozy, et donc Michel Platini. Que s'est-il passé durant ce déjeuner de novembre 2010 en présence du chef de l'État et du prince héritier du Qatar? Est-ce à ce moment que le vent a tourné, alors que la voix de Platini semblait promise aux États-Unis? Les intéressés ne rien savoir d'un possible pacte de corruption, d'un deal entre Paris et Doha avec au centre des tractations la chaîne Beansport ou le PSG, et à 1h du matin, voilà comment William Bourdon, l'avocat de Michel Platini, résume la situation.
Beaucoup de bruit pour rien. Nous ne considérons en aucune façon que Michel Platini puisse être considéré comme suspect de quoi que ce soit, pas plus hier qu'aujourd'hui que demain. C'est donc pour nous une affaire terminé.
Pour l'heure donc, le parquet financier ne poursuit pas Michel Platini, mais attention à ne pas crier victoire, rien n'empêche le PNF, tôt ou tard, de demander la reprise de sa garde à vue.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Le procès Balkany touche à sa fin, plaidoirie de la défense aujourd'hui. Maître Éric Dupont-Moretti plaidera contre ce qu'il appelle une justice sur le mur de l'exemple. Pour lui, la réquisition du parquet à l'encontre de Patrick Balkany, à savoir 7 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et corruption passive, est excessive.
La vaste réforme de l'assurance chômage et ses conséquences politiques, durcissement des règles d'indemnisation, dégressivité pour les cadres gagnant plus de 4 500 € bruts par mois, bonus-malus anti-contrat court pour les entreprises, rien de tout cela ne trouve grâce aux yeux des différentes oppositions. Reportage, salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, Virginie Riva.
C'est la première grande réforme après la crise des Gilets jaunes et la promesse de changement de méthode faite par la majorité. Mais pour le député socialiste Boris Vallaud, après l'échec du dialogue social et le choix de passer par décret, la promesse n'est pas tenue.
C'est une réforme de l'assurance chômage qui se fera depuis plus de 40 ans sans les partenaires sociaux et qui se fera aussi sans le Parlement, alors que nous avons demandé un débat sur la réforme de l'assurance chômage.
Une mesure cristallise toutes les colères à gauche comme à droite, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres, le député insoumis Adrien Quatennens.
Moi je suis attaché au modèle social français qui est celui de la protection sociale collective. Non, moi je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait de la géométrie variable. Chacun doit cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins.
Le gouvernement prévoit plus de 3 milliards d'économies. La droite pourrait applaudir et pourtant elle dénonce une réforme purement comptable à l'image du républicain Daniel Fasquelle.
Il y a un déficit, il faut le combler. Et donc on va, encore une fois, et c'est typique de la politique de M. Macron, taper dans la poche de certains. C'est une réforme qui manque d'ambition, qui manque de souffle.
Chez les Républicains, de rares voix, comme celle de Philippe Gosselin, disent néanmoins vouloir étudier la réforme en détail avant de se prononcer pour ou contre.
Virginie Riva pour Europe 1. Alors maintenant, accrochez-vous, c'est contre-intuitif. Ah. Et c'est une première, l'État français a emprunté hier à taux négatif, -0,001%. Cela signifie, Mathieu, que des investisseurs acceptent de perdre de l'argent pour prêter à la France. Pourquoi diable ?
Ah bah oui, c'est la question qu'on se pose.
Parce que c'est considéré comme le placement le plus sûr possible, ou en tout cas parmi les plus sûrs possibles, et par ricochet. Excellente nouvelle pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier. Écoutez Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com.
En fait, c'est simple. Hein. Si la France emprunte à des taux plus bas, les banques empruntent à des taux plus bas, et donc elles vont prêter à des taux plus bas. Ça veut dire que les taux des crédits immobiliers aux particuliers ne sont sûrement pas au plus bas, et que les taux sous les 1% pourraient se généraliser dans les semaines qui viennent. Quand vous baissez les taux même de 0,25, ça veut dire que vous augmentez à la fois la capacité d'emprunt, mais également vous permettez donc à des gens qui ne peuvent pas emprunter d'emprunter, première chose, et puis vous gagnez aussi quelques milliers d'euros sur le coût du crédit.
Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com, au micro européen d'Emmanuel Duteil, et Nicolas Barret, le directeur de la rédaction des Échos, développera ce sujet plus en détail tout à l'heure, rendez-vous à 7h15.
À suivre dans ce journal, comment mieux financer les sauveteurs en mer, proposition de loi en taxant les plaisanciers. À tout de suite.
Il est 6h35. Tout à l'heure, vers 7h25, retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Pour faire de la transition énergétique une réalité, EDF innove chaque jour. Plus d'informations sur edf.fr.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, proposition de loi présentée aujourd'hui à l'Assemblée pour mieux financer le sauvetage en mer.
Oui, la question des moyens alloués à la SNSM a été soulevée après la mort de trois hommes pendant la tempête Miguel. Le député communiste Sébastien Jumel propose de taxer les plaisanciers. Marguerite Lefebvre.
Faire payer les plaisanciers en fonction de la taille de leur bateau. 5 euros par an pour les plus petites embarcations et jusqu'à 30 euros pour les navires de plus de 15 mètres. Voilà l'idée qui sera défendue par certains députés ce matin à l'Assemblée. Une proposition que soutient également Didier Romain, le président de l'Union des plaisanciers français.
Les plaisanciers doivent avoir en tête que, quoi qu'il va leur arriver, il va y avoir des volontaires, des bénévoles de la SNSM qui vont prendre tous les risques pour venir les sauver. Quel que soit l'état de la mer, eux vont prendre des risques. C'est très clair, nous sommes pour cette participation obligatoire par tous les plaisanciers.
Imposer une taxe pour équilibrer le budget de la SNSM, pourquoi pas? Mais le patron de l'association, Xavier Delagorce, met en garde les députés.
Il ne faudrait pas que ça siphonne la générosité actuelle, parce que si on crée une taxe, si on gagne 5 millions d'un côté et qu'on en perd 3 de l'autre, le solde n'est pas formidable. Voilà, c'est ça qu'il faut bien mesurer. Il y a du pour et du contre. Ce qui est bon, c'est la prise de conscience. Il faut faire quelque chose.
Car il y a urgence. Pour assurer le fonctionnement de la SNSM et renouveler la flotte vieillissante, il manquerait entre 4 et 6 millions d'euros tous les ans.
Explication signée Marguerite Lefebvre, et le député Sébastien Jumel, à l'origine de cette proposition de loi, sera l'invité de Nico Saliagas tout à l'heure sur Europe 1 à 7h45. La foule était nombreuse et enthousiaste à Orlando cette nuit en Floride. Dans un stade surchauffé, Donald Trump a lancé sa campagne électorale pour la présidentielle de 2020. Il a violemment attaqué les démocrates qu'il a accusés d'être, je cite, guidés
par la haine. Direction Londres maintenant. Hier soir, sur la BBC, les 5 prétendants au poste de Premier ministre se sont affrontés. Débat télévisé, lors duquel le favori, Boris Johnson, a essayé de se présenter comme le seul capable de renégocier le Brexit avec les Européens. Correspondance signée Anaïs Cordoba.
Face aux 5 candidats, les téléspectateurs enchaînent les questions sur le Brexit. Un jeune Nord-Irlandais leur demande comment il compte régler le problème de la frontière. Une dame s'inquiète pour l'emploi de son époux dans l'immobilier en cas de sortie sans accord. Les candidats restent évasifs et promettent que tout ira bien. Oui, les Européens seront d'accord pour renégocier, lance Boris Johnson, le grand favori.
Nos amis européens ont maintenant 29 membres du Brexit Party au Parlement européen. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils souhaitaient. Et ils veulent qu'on paye la facture du divorce de 39 milliards de livres. Ils veulent qu'on parte. Ils ne veulent pas d'une sortie désordonnée.
En cas de sortie sans accord, ce sera difficile. Mais la démocratie passe avant tout, rajoutent les 4 candidats Brexiteurs. Un seul candidat prend le contre-pied de cette rhétorique musclée, Rory Stewart, l'outsider qui a percé dans la compétition avec son discours réaliste sur le Brexit.
Ce qui me déprime dans ce débat, c'est que tout le monde promet un nouveau deal avec l'Union européenne qu'ils n'auront pas. Ils promettent de faire passer une sortie sans accord au Parlement, ce qu'ils ne pourront pas faire.
On connaîtra jeudi les noms des 2 finalistes au terme d'un ultime vote des député conservateur. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et c'est la fin de ce journal, mon cher Mathieu.
Eh oui, un bien beau journal. C'était effectivement le journal de David Doucan. David, un journaliste qui hier a vécu un petit ascenseur émotionnel lorsqu'il a vu des invités en uniforme dans la régie.
Nous avons des invités. Bon, eh bien, bienvenue à tous. Vous êtes policier ? Non plus ? Bon, donc je ne vous fais pas part de l'amende que j'ai prise récemment. Et... Bon, et vous êtes quoi alors ? Parce que... Des militaires. Parfait, je reviens vers vous.
On pensait qu'il n'avait que quelques PV à faire sauter. Visiblement, son casier est plus lourd que ça. Bonne journée, David. On vous laisse retrouver vos amis militaires. Céline, on passe à la météo. Ouais. Les orages sont toujours présents.
C'était quand ? Il y avait des militaires hier ?
Oui, calmez-vous, Céline.
J'ai rien
calmez-vous.
Vu.
Des hommes en uniforme, oui. Et on ne vous a pas prévenu.
On a un risque, non, c'est vrai, d'orage encore près des frontières du Nord pour
c'est
ce matin. Le ciel est bien couvert avec un risque d'averse sur toute la moitié nord. Et puis cet après-midi, c'est le retour d'un ciel orageux plus large du nord au massif central. Le soleil sera toujours présent dans le sud-ouest, mais un soleil un peu voilé. Près de la Méditerranée, le flanc est, il sera plus généreux. Flanc est qui verra arriver les orages là aussi, mais en fin de journée. Quant aux températures, elles sont toujours chaudes, mais baissent par rapport à hier. 24 à 30 degrés, c'est la moyenne. Il en fera 24 à Paris, puis un petit peu moins près de la Manche, 18 à Brest ou encore 19 à Cherbourg.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, voici venir les 3 fantastiques, 3 éditorialistes stars qui n'ont qu'un but.
Épater la galerie.
Non, Axel, vous permettre de vous forger votre propre point de vue sur l'actu. Au programme ce matin notamment, nous plongerons avec gourmandise dans les coulisses du gouvernement pour découvrir le nouveau rôle qui attend Sibeth Ndiaye.
Il est 6h41. Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Michel Platini est ressorti libre de sa garde à vue. Il était 1h du matin devant l'office anticorruption à Nanterre lorsque l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France a déclaré, je cite, « ça fait mal ». Il a répondu 15 heures durant aux questions des enquêteurs qui soupçonnent des pratiques frauduleuses lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le procès Patrick Balkany touche à sa fin. Plaidoirie de la défense aujourd'hui, maître Éric Dupond-Moretti plaidera contre ce qu'il appelle une justice sur le mur de l'exemple. Pour lui, la réquisition du parquet à l'encontre de Patrick Balkany, à savoir 7 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et corruption passive, est excessive. Enfin, la foule était nombreuse et enthousiaste à Orlando cette nuit en Floride. Dans un stade surchauffé, Donald Trump a lancé sa campagne électorale pour la présidentielle de 2020. Il a violemment attaqué les démocrates qu'il a accusés d'être, je cite, « guidés par la haine ».
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
On aurait pu croire que leur surnom, les 3 fantastiques, était une hyperbole. C'était en réalité un euphémisme. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. 3 éditorialistes qui se distinguent, outre par la qualité de leurs plumes, par leur inébranlable éthique professionnelle. Jamais, je dis bien jamais, en période de mercato, ils ne seraient capables de renoncer à leur intégrité journalistique, de leur esprit critique pour négocier une augmentation. Comme l'a confirmé cette scène surprise hier, alors que je passais une tête dans le bureau d'Arnaud Lagardère qui recevait Axel de Tarlé.
Vous êtes riche et en plus, vous avez du goût.
Oui, oui. Oui, bon, c'est vrai qu'en période de mercato, il y a peut-être un chouïa de relâchement côté éthique. Bon, on va plutôt commencer par la politique avec vous, Mickaël Darmon, c'est plus sûr. La réforme de l'assurance chômage a été présentée, un texte sensible qui remet le gouvernement sur le chemin des réformes.
Et oui, on the road again, hein, font les réformes. Et attention au rond-point, car les Français ont posé des radars pour flasher le rythme et l'intensité des réformes. Malgré les signes de confiance montrés par Matignon sur l'assurance chômage, eh bien, la prudence est de mise avec tous les textes sensibles au programme. Il faut absolument éviter les sorties de route. C'est la raison pour laquelle Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, eh bien, s'est rajoutée une nouvelle fonction non officielle, être la DIRCOM, la directrice de communication donc, du gouvernement. Hein. Cela consiste à coacher les stratégies de communication des ministres qui n'ont pas toujours une vue globale sur donc, l'action du gouvernement et sa logique, et ce afin d'éviter les couacs. Ainsi, elle a décidé de rencontrer chaque ministre séparément afin de mieux saisir chaque enjeu ministériel. C'est donc une illustration du changement de méthode demandé par Emmanuel Macron et une manière d'admettre également que jusque-là, les rouages du faire savoir étaient un peu grippés. C'est ainsi que Brune Poirson sur le texte recyclage et consignes ou Agnès Buzyn sur les urgences, eh bien, ont écouté les recommandations de Sibeth Ndiaye. Non seulement elle porte la parole, mais désormais elle écrit la manière et le moment où l'on présente les réformes aux Français.
Et cela parce que le gouvernement veut être prêt à résister à de nouvelles secousses.
Et oui, clairement, parce que c'est sur la réforme des retraites, hein, que le gouvernement a des craintes de frictions nouvelles avec les Français. C'est la raison pour laquelle il y a une réflexion sur la nomination possible d'un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État chargée de l'aspect technique de cette réforme qui viendrait renforcer la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ce qui remet toujours sur le tapis, hein, la question des ministres experts qui ont, pour certains, passé un hiver difficile, hein, avec l'assurance chômage et les retraites. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Agnès Buzyn à la Santé, sont à nouveau en première ligne avec des textes ultra sensibles. Les experts de la société civile sont désormais encadrés par des politiques. Pas question d'ouvrir de nouveaux conflits. Et pour cela, Emmanuel Macron met en place l'assurance anti-dommage.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cet éclairage politique. On passe à l'économie, Axel de Tarlé. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, bref. Les locations de vacances en particulier grimpent encore, Axel, plus 15% en 2018, selon une note de l'INSEE.
Voilà, note publiée hier. Alors, on parle là de toutes les locations de vacances entre particulières, que ce soit sur Airbnb, sur Abritel, sur Le Bon Coin, plus 15% l'an dernier. Alors, portées notamment par les touristes étrangers, qui sont de plus en plus nombreux maintenant à passer par ces plateformes pour louer en France. Les étrangers qui représentent désormais donc un tiers de ces locations entre particuliers. Alors la question est,
faut-il s'en réjouir, Axel ?
Ou s'en inquiéter ? Parce que je vous rappelle qu'il y a deux risques avec ces plateformes type Airbnb. Vous avez un, le surtourisme, avec des quartiers entiers maintenant qui sont entièrement dédiés à ces logements pour touristes et donc qui perdent leur âme. Et puis le deuxième risque, bah, ce sont pour les professionnels du tourisme, les hôteliers qui, eux, ont plein de normes, plein de taxes et qui voient arriver des petits concurrents pseudo-privés d'ailleurs, qui eux n'ont pas les mêmes contraintes. Eh bien cette note de l'INSEE, à ces deux égards, est très rassurante. D'abord, elle montre que c'est un phénomène diffus. En fait, ces locations type Airbnb se font à 83% en dehors de l'Île-de-France, de Paris. Ce qui fait qu'en fait, c'est partout en France. C'est pas concentré uniquement dans les quartiers touristiques des grandes villes. Et puis deuxièmement, alors ça c'est très intéressant, les locations entre particuliers ne représentent que 14% de l'activité touristique marchande. Ça veut dire que si vous regardez les hôteliers, les hôtels clubs, le camping, tout ça, ça représente encore 86% de l'offre touristique. Donc vous voyez, on se rend compte qu'avec ces plateformes entre particuliers, on est avec une activité complémentaire qui permet d'accompagner d'ailleurs l'essor du tourisme, d'autant que c'est une clientèle différente. C'est une clientèle, quand vous louez sur Airbnb, c'est plus que vous voulez venir en famille. En revanche, vous voyez, quand vous allez seul ou en couple, vous irez plus volontiers à l'hôtel et moins, en tous les cas, moins en famille. Donc voilà, c'est rassurant. Ça montre qu'il ne faut pas faire comme à Barcelone, qui a interdit carrément ces plateformes.
Ah oui ?
On peut, oui, ils ont interdit des nouvelles inscriptions. On se rend compte, à la lecture de cette note de l'INSEE, qu'on est là bien face à une activité complémentaire et non pas... qui va pas concurrence frontale.
Merci beaucoup Axel de Tarlé. On rappelle Eva Rock les dates où vous serez absente de votre appartement parisien, soit pour une location, soit pour nos amis cambrioleurs qui nous écoutent aussi.
Ouais, c'est ça.
C'est de la location collaborative, ça permet de rentabiliser des espaces vides. C'est très bien.
Et bien
non,
sûr.
Non, mais l'espace n'est pas vide.
N'est pas vide. Ça sera le mot de la fin d'Eva Rock. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Eh bien, deux programmes ce soir avec des avions et des hommes nus. Les avions.
Ça vous ressemble tellement.
Évidemment.
Vos deux passions.
Exactement. Les avions, c'est sur RMC Découverte à 20h50 avec un documentaire au titre très clair. Le Bourget, un siècle d'aviation. C'est à l'occasion du Salon du Bourget dont nous venons de parler que ce film revient sur la création de l'aéroport du Bourget. Alors écoutez bien, nous sommes en 1914 et la guerre vient d'éclater.
L'épisode des taxis de la mort que tout le monde connaît, qui permet à Paris de tenir et de freiner l'avancée allemande, ce qu'on connaît moins, c'est que cet épisode des taxis de la mort est provoqué par une reconnaissance aérienne qui permet de voir l'ennemi avancer. Et donc on se dit que finalement,
l'utilisation de l'avion, puisqu'on a utilisé un avion de reconnaissance, est intéressante pour protéger Paris.
Et c'est comme ça que le Bourget devient un aéroport militaire. Il naît grâce à la guerre, avant d'être détruit par l'autre grand conflit du siècle en 1939. Il va devoir sa résurrection au développement de l'aviation civile, puis l'aviation d'affaires. C'est un documentaire qui est très bien fait, qui a un atout, qui est celui de raconter en parallèle l'histoire du site du Bourget. Et l'histoire de l'aviation, c'est à voir sur RMC Découverte à 20h50. Mais je vous l'avais promis, ce soir, c'est aussi des hommes nus.
Ah, bah voilà. Ah, moi, je crois que c'était des hommes nus sur.
Non, pas sur un avion.
Sur l'avion. Quoi, un peu comme le groupe Ozone.
Non, vous allez comprendre. Nouvelle saison de Nu et culotté sur France 5. J'espère que vous connaissez ce magazine avec Nance et Moutz qui sont des globetrotteurs qui se lancent toujours dans des voyages défis. Par exemple, ce soir, ils sont en plein cœur des Vosges. Ils sont nus. Ils n'ont que leur caméra et leur sourire. Et surtout, une fois en l'autre qui me laisse souvent sans voix. Objectif, rejoindre la Norvège pour un bain de minuit, un soir de pleine lune. C'est ça, leur défi. Alors, ça débute plutôt bien pour eux. Ils sont en pleine forêt. Un véhicule va s'arrêter. Le chauffeur leur offre ses vêtements de travail. Et quand vous demandez à ce chauffeur s'il n'a pas eu peur en voyant le duo comme ça, en plein milieu de la nuit, bien réponse.
Oh, moi, j'ai rarement peur. Je fais 2 mètres. Tu vois. C'est pas 2 mecs à poil dans les Vosges qui vont me faire peur. Non, mais tu te dis quoi, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi j'ai pensé, je me suis dit putain, les mecs ils se sont fait dépouiller, puis après tu vois qu'ils ont des caméras, ils ont des bâtons, et tu te dis non, ils se sont pas fait dépouiller parce qu'ils se sont fait dépouiller les caméras pour les fringues. Et puis bon.
Et voilà, donc ils se retrouvent avec des fringues et ils vont partir pour la Norvège et ils vont y arriver. Un périple de Nance et Moutz qui est toujours aussi émouvant, qui est rythmé par les rencontres improbables qu'ils font au cours de leur route. Peut-être parfois un peu larmoyant, mais l'aventure reste hors du commun et donnerait presque envie de tenter l'expérience.
De se mettre nu ?
Non, avec des vêtements du voyage comme ça.
Ah bah non, mais si vous tentez l'expérience, vous le faites
non, jusqu'au bout. Non, non, non.
Et sans culotte.
Mais enfin,
bah, c'est nul et sans culotte. Je rappelle le nom du programme.
Nu et culotté. Ah oui,
c'est culotté.
Ah bah non,
mais c'est Axel, une nouvelle idée. Aller plus loin encore, sans la culotte. Merci Axel. Je pense que le directeur des programmes entendra ce désir de votre part. Merci beaucoup Eva, Mickaël Darmon et surtout Axel de Tarlé. L'équipe des Trois Fantastiques reviendra en culotte dès demain, 7h-15.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin et c'est peut-être mieux, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas avec des journalistes, vous allez l'entendre, toujours aussi professionnels bien sûr, mais qui ont quand même de plus en plus la tête aux vacances. Il faut dire que la convention des journalistes leur assure 11 semaines de congés payés, comme dirait Axel Hou.
Ah, on s'est pas trompé de métier. Hein.
Le débrief de la matinale d'Europe 1 à suivre.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine car le voilà déjà bronzé comme s'il revenait de vacances alors qu'il n'est pas encore parti. Quel bonheur de retrouver Nikos Aliagas.
Hello sunshine.
Oh, appelez-moi Mathieu. Pas de chichi entre nous. Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nikos. Nikos qui, comme tout le monde dans la rédaction d'Europe 1, est clairement passé cette semaine en mode pré-vacances.
Get up, stand up.
Oui.
Get up for your rights.
Peut-on entendre s'exclamer Nikos déambulant à la cool dans l'open space? Des mots aussi simples que sirocco deviennent compliqués à dire pour Laurent Cabrol qui vient d'être livré en Château Minuti.
Ça c'est des faits sirocco.
Un relâchement physique et surtout neuronal qui a un impact direct sur la qualité de l'humour du 7-9.
Béarn, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, région Rhône-Alpes, Franche-Comté, Lorraine-Alsace.
Lorraine et Hardy.
Oui. Oui, on est tous un peu crevés.
J'ai dit
c'est,
ça.
C'est le temps des au revoir. Le temps des regrets aussi pour Céline Dacosta, par exemple, qui attendait plus de la vie.
Oh, c'est fini Céline Dion à Vegas. Mince, on n'aura pas été.
Ouais, on ira voir Michel Sardou au Palais des Congrès.
C'est vrai qu'elle avait le temps. Elle avait le temps en plus.
Oui, elle avait le temps. Bref, on est tous fatigués, mais allez les gars, c'est la dernière ligne droite. C'est 15 jours qui restent à tirer. C'est notre A7 vers le péage de Lançon de Provence. On sent déjà les 12 effluves du Courtepaille d'Avignon Sud, sortie 79, à l'entrée duquel on retrouvera certainement Julie en femme sandwich.
Au menu, convivialité et délicieuse grillade.
Ah, profitons de ces derniers jours ensemble, les amis. Car si c'est la dernière ligne droite pour le taf, c'est aussi la dernière ligne droite pour la drague. Nikos en a parfaitement conscience, c'est le money time. Plus que quelques jours pour boucler ce qu'il appelle le dossier Zélani. Un dossier qui a donné pas mal de fil à retordre à Nikos, latin lover généralement plutôt habitué à ce que les dosses lui tombent tout cuit dans la main. Là, il commence à s'agacer, du coup il va droit au but.
Ok, tu gardes le sac de ta copine ou je t'amène un verre?
Il l'aura à l'usure. Mais quand même, que d'efforts. Des efforts qu'il paiera cash en récupération cet été, car comme il le dit lui-même, sans amertume.
J'étais jeune, je dormais 2 heures, je repartais.
Bonne chance, Nikos, pour le dossier Zeleny. Plus que quelques jours, enfin également, pour rendre sexy l'édito écho de Nicolas Barré. Nikos s'y emploie comme un beau diable depuis des mois, sans succès. Il a tout essayé, sur le rebond du CAC 40.
Superbe.
Sur la baisse historique des taux d'intérêt. Rien n'y fit. L'édito écho demeura toujours aussi dépourvu de toute once de sex appeal. Alors Nikos tenta de rendre sexy au moins le teasing, quand on met l'eau à la bouche pour appâter le chaland avant la pub. Mais là encore... chou blanc.
Nicolas Barré est déjà en studio. De quoi on parle ? On parle de sous ce matin ?
Oui, de Facebook qui va lancer sa propre monnaie, figurez-vous.
Bonne chose ou mauvaise chose ?
Ah, vous allez voir.
Quel teasing ! Allez,
vivement le courte faille, je te dis, moi. Allez.
Vous êtes trop fort, trop trop fort.
Bonne journée,
et vous trouvez Nikos. Encore le talent pour sortir par le rire.
Et je remercie Sébastien Bordenave qui vous écoute tous les jours et qui isole tous ces petits sons pour moi.
Et qui, au fond, est très clément avec nous parce que ça pourrait être bien pire. Merci Sébastien.
Et Philippe Amardet, là-haut.
Et Philippe Amardet, la réalisation, évidemment.
Super réalisateur.
Évidemment,
merci les amis de Salut les copains. À demain, même heure.
Salut les copains, debout les copains. Parce que Salut le copain, c'est vrai, j'aurais aimé le présenter, mais c'était il y a longtemps.
Vous l'avez en vous, c'est dans votre ADN.
C'est ça.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.